Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil. Alors, je constate que nous avons quorum, donc nous allons donc procéder tel que prévu à l'ordre du jour. Alors, pour ça, bien, dans un premier temps, je vais demander qu'on me propose d'adopter l'ordre du jour et qu'il soit approuvé tel que présenté par M. le DG Simon Leclerc. Alors, je vais accepter une proposition.
Je propose.
Okay. Madame France propose. À l'item 2, on a l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin. Alors, attendu que les membres ont reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin de l'Assemblée par courrier électronique, je vais accepter une proposition d'accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin.
Je propose.
Monsieur Claude propose. Merci Claude. L'item numéro 3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire qu'on a tenue le 20 juin. Donc, tout le monde a reçu le procès-verbal, en a pris connaissance, je suppose. Alors, je vais accepter une proposition d'approuver tel que rédigé le procès-verbal du 20 juin.
Je propose.
Monsieur Daniel. Merci Daniel. Alors, on est rendu en 4 à l'approbation des comptes. Monsieur le DG nous a déposé les comptes au montant total de 80 789,92 sous. Qui sont répartis de la façon suivante, à savoir que au niveau des dépenses incompressibles du 21 juin au 18 juillet, on a une dépense de 13 486,48 sous. Au niveau des déboursés au 18 juillet, on a 47 201,14 $. En ce qui concerne la masse salariale et les déductions à la source, pour le mois de juin, on en avait pour 20 102,30 $. Alors, c'est ça qui nous fait le montant total de 80 789,92. Alors, j'accepterai une proposition d'approuver et d'entériner le paiement des comptes suivants. J'attends une proposition.
Je propose.
Madame France propose. C'est bien, merci. C'est Mme France Parizeau qui a proposé. En 5, dépôt de l'État des revenus et dépenses au 18 juillet. Donc, le directeur général nous a déposé l'État des dépenses et des revenus. Et jusqu'à date, et Simon, tu peux peut-être confirmer ce que je veux dire. Là, jusqu'à date, on est bien, bien situé au niveau de ça. Ça va tel que le budget était prévu à cette date-ci d'habitude. Là, on est correct, à ce que je sache.
On a manqué ça, René. Peux-tu le répéter, s'il vous plaît? C'était un délai.
OK. C'est le dépôt de l'État des revenus et dépenses. Alors, je demandais à Simon de confirmer comme quoi, à cette date ici, quand on regarde le budget, tout semble bien aller le tel que prévu en tant que tel. Oui, alors, Simon, est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas, monsieur le maire. Donc, il y a un 3 % on est à 3 % en bas du montant là où on devrait être là, au niveau des dépenses, des charges, ce qui représente environ 30 000 $ par rapport au budget si on respecte une moyenne égale là, pour chaque mois au niveau de l'année. Donc, on a un 3 % avec un 30 000 $ là, de, je dirais pas de lousse, mais qui nous permet de... Puis, de suivre le budget là, de manière adéquate. Là.
Parfait. Parfait. Donc, vous voyez, on tente le plus possible de contrôler nos dépenses là, telles que prévues au budget. Alors, ça va tout le monde? On va donc passer à l'item 6. Donc, vous savez qu'on a remplacé 10 quais. 10 quais qui étaient des quais instables pour des nouveaux quais par le film Pour Alu. Alors, l'installation a été faite, bien faite. Donc, ces quais-là sont maintenant disponibles en vente libre là, pour le public. Il va y avoir un avis public là, qui va être donné par la municipalité de Lac-des-Saisilles. Et on va recevoir à ce moment-là, prêt à recevoir des soumissions de personnes intéressées à faire l'acquisition des quais. Considérant qu'on désire se départir des 10 quais hein, en tant que tel, et considérant que la municipalité va publier l'avis public avec tous les renseignements pertinents pour se procurer les quais en question. Considérant que le conseil se préoccupe de donner une deuxième vie à des matériaux et préoccupé par l'environnement, c'est-à-dire que nous, on tente autant possible là, d'aller vers du réemploi là, dans s'intéresser à ces quais-là, ben, ces quais-là seront vendus tels quels, par contre, dans l'état actuel. Alors, je vais accepter une proposition de publier cet avis public-là concernant la possibilité d'acquérir les quais. Toute la procédure là, en appelant la direction générale ou justement c'est quoi la procédure, il y a un formulaire à remplir, vous devez mettre une traite bancaire, je crois, ou un chèque certifié selon le nombre de quais et selon la soumission que vous voulez faire pour le nombre de quais que vous désirez. Mais grosso modo, là, je vous résume la procédure, mais en téléphonant à l'administration, vous allez avoir tout ça. Alors, j'accepterai une proposition. Et Simon, peut-être nous dire quand l'avis public devrait être affiché et jusqu'à quand les gens vont pouvoir déposer leur demande d'achat. Leur soumission, en fait.
Oui, l'avis public devrait être affiché là, d'ici une semaine et demie, disponible sur le site Internet de la municipalité. Puis, les gens aussi qui font la requête là, par téléphone, en ayant le courriel de chaque citoyen, on va pouvoir l'envoyer, l'avis public, avec les formulaires à compléter, dans le fond. Puis, après ça, bien, on va se donner une période et on devrait être en mesure de confirmer la vente des quais ou des portions là, à la prochaine séance du conseil au mois d'août. Donc, accepter les propositions qui ont été déposées.
Ça va pour tout le monde?
Je propose donc.
OK. Alors, M. David Estal propose. Merci, David. L'item 7, on va parler de l'embauche d'une chargée de projet en environnement. Alors, dernièrement, on a eu la chance, on avait des postes étudiants qui nous avaient été acceptés par le fédéral. Le gouvernement fédéral. Alors, on a réussi à combler ces postes-là par une dame qui, justement, étudie au niveau de l'environnement. Simon, tu me corrigeras. Donc, c'est vers ça, vers quoi elle se dirige en tant que sa spécialité. Et c'est un peu pas mal ce qu'on recherchait. Alors, on a bien tombé. Alors, considérant le processus de recrutement pour conduire les deux postes étudiants, considérant que la municipalité a des besoins pour un poste de chargé de projet en environnement, et bien considérant que le processus de recrutement a permis de retenir une candidature qui se démarquait pour ce poste, je vais accepter une proposition d'embaucher Mme Maëvé Gagnon-Cavana au poste de chargée de projet en environnement dans le cadre d'un emploi étudiant saisonnier.
Je propose.
J'ai une question.
Oui.
Je vous ai perdu, je ne sais pas où vous êtes rendu, c'est pas grave. C'est quoi quelles sont ses tâches?
Ben, je vais laisser Simon répondre à ça, là.
Est-ce que vous voulez dire les plages horaires pour lesquelles elle travaille? C'est bien ça la question?
Non, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle va faire comme projet de comme chargée de projet en environnement. Elle est en charge de quel projet? Qu'est-ce qu'elle fait?
Oui. C'est-à-dire qu'elle fait plusieurs choses en lien direct avec sa technique. Elle est étudiante en technique en environnement au Cégep à sa deuxième année. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille sur les projets de répertorier toutes les installations septiques sur le territoire, complétées avec les données qui avaient déjà été faites. Et Jean-Philippe Dupuis, l'inspecteur, et elle vont faire un rapport au conseil municipal avec différentes zones. Là. Vous allez voir, vous allez avoir un rapport là-dessus. Ensuite, elle va faire de l'échantillonnage au niveau du lac aussi, donc avec M. Jean-Louis Courteau et un biologiste, là, justement, avec le projet des Amis du lac. On a commencé à l'intégrer dans ce projet-là et elle va en faire partie, justement. Elle est impliquée aussi au niveau de la prise des mesures du niveau du lac. Là, on fait 2 à 3 types d'échantillonnage aussi, autres pour s'assurer de la qualité de l'eau. Donc, elle est vraiment en charge de ça. Elle est en mesure aussi de conduire une embarcation pour se déplacer sur le lac. Puis, on lui fait faire là, plusieurs autres projets là aussi. Elle est impliquée avec le comité d'environnement aussi. Là, on est en train de rédiger un résumé, un compte-rendu de toutes les activités au niveau du comité environnement. Il va y avoir une réunion là, qu'on aimerait convoquer pour faire certains suivis au niveau environnement. Donc, elle est impliquée avec la Myriophile, Jean-Louis Courteau, à plusieurs endroits. Là.
OK. Est-ce que le monde autour du lac devrait s'attendre à avoir des visites de leur propriété pour l'inspection des installations septiques?
Oui, oui.
Quelqu'un va se présenter ou bien on va appeler avant ou on s'attend à quoi?
Oui, on va envoyer des correspondances par la poste.
OK.
Et aussi probablement des appels. Puis nous, l'objectif de la municipalité est de principalement avoir une idée où se trouve l'installation septique en question. Dans le fond, c'est ce qu'on veut savoir parce qu'il y a des citoyens qui ne savent pas où est leur installation septique. Puis on y va d'une manière ciblée là, selon les dossiers qu'on a à l'interne. On ne fait pas tous les citoyens. Là. On a déjà une base de données d'environ 40 citoyens qui vont être consultés. Là.
D'accord. Alors, c'est la localisation, pas nécessairement la qualité.
Oui, il y a la localisation et ensuite, on va y aller avec la qualité. Puis, s'il y a des installations, c'est parce qu'il faut commencer par savoir où ils sont, les installations septiques, et après ça, on va être capable de déterminer s'il y en a qui sont défectueuses ou polluantes.
D'accord. Alors, par la poste, naturellement, le monde sur le lac, c'est par téléphone.
Oui.
OK. Parfait. Merci.
Monsieur Leclerc, est-ce que le même travail va être fait au lac Laurel?
Oui, bien c'est ça, oui. Il en fait partie, là, oui.
Oui. OK. Merci. Merci.
Oui.
C'est bien. D'autres questions là-dessus? Alors, France, tu proposes toujours?
Oui, je propose toujours. En passant, Maëve, elle a ses cartes de plongée. Elle peut faire de la plongée, hein?
Oui, oui. Oh, non, C'est une petite fille très versatile. Nous, on est allé marcher avec elle, le sentier Duncan.
Oui, c'est vrai.
Entre autres, puis je vais vous dire, elle m'a l'air pas mal animée, la petite fille. OK, ben c'est good. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous savez déjà, d'ailleurs, probablement qu'on a déjà embauché aussi un autre étudiant qui est, dont le nom est Leighton...
Garrity.
Garrity, c'est ça. Et il fait du bon travail, M. Leighton, aussi, également. Fait qu'on les remercie tous les deux. Là. C'est un bon apport pour la municipalité, également. Rapport du mensuel du service d'urbanisme, commentaire là-dessus? Pas de commentaire? Simon, quelque chose, toi, à ajouter dessus?
Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Vous voyez qu'il y a eu certains permis qui ont été émis. Il y a eu beaucoup de suivi de permis au mois de juin. Et il y a eu quand même plusieurs avis verbaux qui ont été faits là, aux citoyens. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec les citoyens pour les sensibiliser à l'importance de prendre un permis pour s'assurer que les travaux soient faits en bonne et due forme. Puis, on essaie d'assurer une présence sur le territoire le plus possible.
Parfait. Est-ce que Maëve est sûrement mise à contribution là-dedans? Mais est-ce que nos employés de voirie qui sont sur le terrain et qui observent des choses, est-ce qu'ils sont mis à contribution également?
Oui, beaucoup. Je vous dirais beaucoup.
Ah, OK.
Oui.
C'est bon. Bon, ben c'est parfait. Fait que c'est correct pour tout le monde. Maintenant, c'est l'adoption du règlement sur la division des territoires, autrement dit, les districts. Considérant qu'un avis de motion a été donné, ben ça, c'est l'item 9, là. Considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme la conseillère France Robillard-Parizeau le 20 juin, considérant que le conseil désire modifier le découpage des districts, considérant que le conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement avant la présente séance, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à disposition du public le 20 juin sur le site web de la municipalité après la séance du conseil, considérant également qu'une copie du projet de règlement et la carte ont été publiées le 22 juin, considérant que le projet de règlement a été proposé par M. le conseiller Daniel Filiatro et adopté majoritairement, bien, je vais accepter une proposition que l'on accepte ou on adopte, devrais-je dire, le règlement 216-29-2 sur la découpe des districts avec dispense de lecture. Et à la fin, moi, j'ai eu une question de M. Meldrum à laquelle je répondrai. Quels sont les tenants et les aboutissants qui nous ont amenés à faire cette modification-là des districts? Alors, j'ai quelqu'un qui propose?
Je propose.
M. Claude Parizeau propose. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Un vote, monsieur.
Vous demandez le vote? Alors, monsieur, je vais commencer par le siège numéro 1. Le district numéro 1, Mme Rock.
Oui.
Vous comprenez?
Pour.
D'accord. David, district 2.
Contre.
District 3, M. Claude.
Pour.
District 4, Mme France.
Pour.
District 5. Madame,
je suis contre, je me demande si Claude est en conflit d'intérêt de proposer une résolution qui l'avantage. C'est pas grave, là, c'est pas grave. Contre.
Je comprends pas.
C'est pas grave de toute façon.
D'ailleurs, le cas du sexisme.
Pour.
Alors, adopté majorité. On s'en va maintenant en 10. Octroi du contrat d'aménagement de la plage Joseph Roger. Alors, considérant que la municipalité désire réaliser des travaux d'aménagement paysager sur le site de la plage Joseph Rogers. Entre autres, une des choses que l'on désire, c'est enlever le stationnement qu'il y a à la plage. On considère que c'est incongru de retrouver un stationnement dans un aire de jeu et une place comme ça, une plage. Donc, on va rediriger les voitures vers d'autres stationnements qui vont être disponibles. D'ailleurs, juste l'autre côté de la 364, il y a des stationnements. Considérant qu'un plan d'aménagement et un devis technique a été réalisé, et afin de mesurer le potentiel du site et d'avoir l'expertise nécessaire pour améliorer l'espace et le site. Considérant également que les travaux suivants sont couverts par une subvention avec le Fonds de développement du tourisme Laurentide, donc en bonne partie, et considérant que le conseil a pris connaissance du devis technique et du plan d'aménagement, considérant qu'on a reçu des soumissions de deux fournisseurs, soit serre et pelouse Croc-Herbe au montant de 34 664,79 $ et un autre au montant de Terre au montant de 28 464, eh bien, on va accepter la soumission. Je vais aller plus bas. Donc, sur proposition, là, on accepterait d'accorder le contrat pour les travaux d'aménagement paysager au soumissionnaire conforme, soit Terre et Habitat, au prix de 28 464. Ça, c'est important de dire qu'il était conforme, sa soumission était conforme. Alors, ça, c'est un montant avant taxe conformément au devis technique qui fait partie intégrante du contrat. Alors, quelqu'un pour proposer ça?
Propose.
Juste un point d'information, comment est-ce qu'on va incorporer notre discussion d'avance par rapport aux ajustements de ce plan et tout? Si on donne un contrat, c'est un contrat, mais peut-être on mentionne qu'un ajustement de plus ou moins 10% serait possible sans qu'on soit chargé pour des extras. C'est-à-dire que si on élimine un peu de sentier, puis on ajoute un enclos pour la toilette, par exemple, ou quelque chose, pas dans leur contrat, non, mauvais choix.
Oui, parce que l'enclos, on veut...
Qu'on demande qu'ils bougent les arbres d'une place à l'autre, qu'ils changent leur plan et tout, c'est du travail pour eux autres, même considérer ces affaires. Donc, ils doivent être payés pour le travail qu'ils font, mais si on veut que ça soit incorporé dans ce contrat, sans extra, il faut que ça soit mentionné, je pense, dans le contrat. Simon, qu'est-ce que tu...
Moi, je vous recommande au conseil, là, suite à la discussion qu'on a eue tantôt, de rajouter un considérant là, sur l'aspect qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire de que Terre et Habitat demeure ouvert à faire que des modifications mineures. Là, puis, principalement, ce qu'on a discuté tout à l'heure, ça concernait les sentiers. Donc, je vous suggère de rajouter ça dans les considérants. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a quelque chose qui laisse la porte ouverte pour nos modifications.
Ben, c'est ça. On pourrait rajouter effectivement un considérant comme quoi qu'il y a certaines modifications qu'on veut apporter, mais que ces modifications-là, il faut que ça demeure à l'intérieur du prix qui a été déposé. Ouais. Fait que donc, autrement dit, on peut faire des modifications qui peuvent peut-être baisser le prix, mais on ne peut pas en faire qui va augmenter le prix.
Oui, oui. Et si on demande quelque chose qui baisse le prix, peut-être on peut trouver une autre coupe d'arbustes ou quelque chose comme ça.
Tout à fait. C'est sûr que faut qu'il y ait un give and take. Hein?
C'est ça.
C'est ça.
OK.
C'est bon, David? Fait que Simon, je présume que tu vas nous préparer ça, puis quand on aura le procès verbal, l'autre considérant va être dedans.
Oui, c'est ça, je viens de l'ajouter à la main, là, puis ça va être ajouté. Ouais.
C'est beau.
C'est bien?
C'est bien.
Je demande un vote, moi.
OK. Quelqu'un propose?
Moi, je propose.
Et donc, Michel. Michel, tu es venu à voter encore?
Ah oui, pour.
OK. David?
Oui, je vote pour.
OK. Claude?
Moi, je n'ai pas compris ce que M. Estal, ce qu'il était pour.
Je suis pour avec les considérations que nous avons mentionnées.
Okay.
Ça va.
Michel, ton mute, là, s'il te plaît.
Ah, ça va bien mieux. Alors, le siège, c'est toi, Claude?
Oui, je suis pour.
District 4, France, Madame France.
Pour!
District 5, Madame Colina.
Je suis contre.
Monsieur Daniel.
Je suis pour.
Alors, adopté à la majorité. Alors, les affaires nouvelles au niveau de la MRC, j'ai reçu hier. Ce que je peux vous dire, c'est que hier j'ai reçu un courriel, en fait un communiqué comme quoi que les travaux vont débuter le 3 août. Alors, les travaux commencent par du déboisement, bien entendu, des limitations entre la zone des travaux, puis après ça, bien, les excavations vont pouvoir débuter. Si vous avez des questions par rapport à ça, je n'en ai pas. Des nouvelles des organismes. À part ce qu'on a parlé avant la réunion au niveau de la navette et le service d'urgence de la navette. Alors, écoutez, on travaille avec la cohorte de solidarité des quatre pôles, justement, à mettre en place, et ça devrait se terminer sous peu, à mettre en place une procédure qui va faire en sorte que lorsqu'il va y avoir un appel 911 de placer, cet appel, c'est une personne du lac qui n'a pas de chemin. Ben là, tout de suite, la navette sera mise à contribution s'il y a lieu de transporter pompiers, ambulanciers, premiers répondants, whatever. Donc, la navette, elle fera partie intégrante de la procédure de sécurité publique. Donc, on va être en mesure de l'utiliser en tout temps. Fait que donc, il va y avoir des capitaines qui vont être en stand-by. Il y aura toujours un capitaine en stand-by et la navette sera toujours prête à démarrer. Il y aura des équipements à l'intérieur de la navette, en plus de ça, pour pouvoir justement prodiguer des premiers soins ou des choses comme ça. Et tout ce qu'il faut comme, équipement d'attache ou des affaires de main pour pouvoir embarquer et retenir la civière ou planche dorsale ou tout autre type d'équipement nécessaire à des sauvetages ou autres événements.
René, est-ce que je peux juste apporter une précision?
Ben, ça va.
Sauf erreur de ma part, comme on dit si souvent, je pense que la navette va être portée à contribution au service d'urgence déjà établi. C'est-à-dire que c'est un moyen pour les services d'urgence de se rendre à des endroits où il n'y a pas accès par des chemins publics. Et porter assistance, naturellement, avec les services en place, on parle de la police, des pompiers, peu importe du service, mais la navette comme telle est un véhicule d'accès. C'est ça qui va être le mandat de la navette. Alors, pour l'instant, on ne va pas équiper, je ne pense pas qu'on est prêt à équiper la navette de matériel de secourisme comme tel. Mais le matériel de la navette va être un matériel pour que la navette soit opérationnelle. C'est-à-dire des équipements d'ancrage, d'éclairage, d'accès par la navette, c'est-à-dire une plateforme d'accès. C'est ces choses-là que la navette, ça va être ça le mandat de la navette. Pour l'instant, on verra s'il y a moyen d'avoir du personnel qualifié pour porter secours à des gens?
Ben, il y a des
autres que les services d'urgence qu'on connaît.
Tu sais. Tu me connais. Je sais déjà pertinemment qu'il y a tout ce qu'il faut pour prodiguer les premiers soins à bord de la navette. Puis quand ce sont des capitaines certifiés, les capitaines certifiés ont reçu le cours de secouriste en mer puis sur terre. Donc, au moins, au ski des premiers secours, on est toujours capable de le faire. Là.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Yeah.
Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Pas de problème. Bon. Est-ce que Simon, peut-être, avait quelque chose d'autre à ajouter à ce niveau-là?
Oui, ben, c'est-à-dire c'est pour c'est complémentaire seulement, mais c'est que oui, on a 4 capitaines là, actuellement qui sont disponibles pour agir. Là. Puis ensuite aussi, on va essayer d'améliorer certaines choses au niveau de l'accès à, par exemple, la clé de la navette. Donc, on va améliorer ces éléments-là là, au cours des prochaines semaines. Puis avec ce que M. le maire a dit, là, les équipements, la bonification puis l'ajout d'équipements et du matériel. Mais la navette là, est actuellement disponible là, pour intervenir. Là.
C'est bon. Merci. Donc, on voit le thème suivant, subvention disponible. Il est au singulier dans l'ordre du jour, mais je peux vous dire que ça devrait être au pluriel parce qu'il y a plusieurs subventions. Le gouvernement, présentement, inonde d'annonces de subventions de toutes sortes de programmes. Fait que donc, on est vigilant, autant que moi que Simon, on est vigilant. Puis d'ailleurs, j'invite tous les élus, si vous entendez parler de subventions qui sont disponibles, puis qui visent certains projets qu'on a en tête, bien, gênez-vous pas d'en faire part à Simon, puis Simon va entamer les démarches dans ce sens-là. Alors, c'était mon message que je vous passais.
René?
Oui?
René? Je m'excuse si tu le permets. J'aimerais ça revenir pour nouvelles sur les organismes. Daniel, j'aimerais ça que tu renchérisses ou tu en parles du magasin général avec les nouvelles mesures qui vont être renforcées.
Oui. Tu veux que j'y aille là-dessus pour commencer?
Oui, oui. Oui, juste pour renforcer là, les...
C'est bon. Donc, j'ai rencontré Jocelyne Baron jeudi dernier, qui est la directrice générale de la coopérative, pour lui faire part de certaines choses que j'avais remarquées au magasin général. Par exemple, au magasin général, au début, les employés portaient tous le masque. Au tout début, les gens du lac n'étaient pas encore arrivés. Donc, il y avait moins de possibilités là, d'interaction entre les clients et le personnel. Puis là, bien, depuis que les gens sont pas mal tous arrivés au niveau du lac, bien, j'ai remarqué que les employés ne mettaient plus le masque. Donc, les employés se mettaient un peu en danger compte tenu du volume de personnes qui se présentent au magasin général. Mettaient plus le masque et aussi le nombre de clients qui étaient admis dans le magasin général était supposé être de 3. Et lorsque j'y ai été une fois, il était 7 personnes dans le magasin général. 7 personnes avec pas de procédure au niveau de la caisse pour aller payer. Donc, c'est un peu, je vous avoue, un peu le fouillis. C'est ce qui m'a poussé à rencontrer Jocelyne pour lui faire part de ça. Elle en a pris bonne note, si bien que dorénavant, il y a des mesures qui vont être appliquées au magasin général. Par exemple, en tout temps, les employés devront avoir un masque et une visière. On a fait l'achat de masques et de visières au magasin général. Ça va être 3 clients à la fois. Et ça aussi, ça va être important. Ils vont aussi marquer au sol des flèches pour indiquer la direction pour les gens qui ont fait un achat pour se diriger vers la caisse pour pas qu'il y ait une ou deux lignes en même temps pour payer. À part ça, l'autre chose qui était problématique, on sait qu'il y a des gens, qui ne sont pas au courant des nouvelles mesures du gouvernement concernant la santé publique et l'obligation depuis aujourd'hui de porter le masque dans des commerces fermés. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour la première semaine, on a acheté des masques jetables pour pouvoir en donner aux clients qui vont se présenter sans savoir peut-être qu'ils sont obligés à partir de ce matin de porter un masque. Donc, on peut comprendre qu'une personne qui demeure en Ontario, qui est ici à son chalet, qui n'est pas au courant des derniers développements en ce qui concerne là, la COVID et l'obligation de porter le masque. Donc, on va le fournir à ces gens-là. Par contre, on va bien les indiquer qu'à l'avenir, ils devront s'en procurer un pour pouvoir venir faire deux emplettes au niveau du magasin général. On a aussi envoyé un message à Gestion 16-Îles pour qu'ils puissent aviser les gens du lac de ces mesures-là, s'ils sont capables de le faire, donc ça va faire surplus. On a aussi des affiches qui sont placées à la pompe à essence, ainsi que près de la porte d'entrée, expliquant aussi ces mesures-là. Donc, grosso modo, c'est ça qui a été pris comme mesure concernant la COVID. En plus de ça, j'en ai profité, tandis que j'étais avec Jocelyne, pour lui faire part de un peu la propreté alentour du magasin général qui n'est pas là. Essayer de l'inciter à faire une charte pour qu'un employé là, du magasin général, une fois semaine, fasse une tournée alentour du magasin général, s'il y a des papiers, des choses qui traînent, venir se propre, dans le fond, là. La même chose pour les mégots de cigarettes près des marches d'escalier. Les gens qui arrivent en voiture, souvent débarquent de voiture, éteignent les cigarettes, puis mettent ça à côté des marches. Donc, on va essayer de se doter d'un récipient pour que ça soit mis dans ce récipient-là, ainsi qu'un cendrier. Un cendrier avec la distance légale, un cendrier que les gens vont pouvoir se servir, parce que le nôtre a été détruit cet hiver par ceux qui déneigeaient le stationnement. Donc, on va s'en procurer une autre. Et au niveau des bacs d'ordures aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'odeurs persistantes au niveau des bacs avec les températures qu'on a eues. Je me suis rendu compte que le compost, hein, les restants de nourriture qui vont dans le bac brun, bien, j'ai l'impression qu'il y en avait qui allaient dans le bac à vidange aussi. Donc, imaginez-vous, si on met des restants dans le bac à vidange qui sont deux semaines avant d'être ramassés, l'odeur qui peut sortir de ces bacs-là. Donc, ils vont être lavés, ils vont être nettoyés et les bacs ne servent pas parce qu'il y en a beaucoup de bacs sur le côté de la maison. Tout près d'une maison d'une citoyenne, je pense que, par exemple, les bacs de récupération, on s'en sert peut-être de 4-5, mais je pense qu'on en a 10. Donc, il y aurait moyen, je pense, avec les bacs qu'on ne sert pas, de dégager un petit peu le côté du magasin général. Puis de cette façon-là, ben, ça va être plus propre aussi, là, puis ça va être plus attrayant pour la clientèle qui vient au magasin. Donc, ça fait le tour en ce qui me concerne là, pour les discussions qu'on a eues, pour les correctifs à apporter.
Moi, j'ai juste, Daniel, si tu permets, c'est que tu mentionnes Jean du Lac. Il y a un énorme influx de gens d'un peu partout. Alors, c'est juste pas juste Jean du Lac, là, c'est du monde qui passe. Je vois des autos qui viennent régulièrement. Alors,
oui, tu as absolument raison, non?
Changer un peu. Jean du Lac a généralisé ça un peu.
Non, mais c'est général, mon commentaire. La seule chose que je dis, c'est que les gens qui demeurent au Québec, ils sont plus portés à suivre les nouvelles et les développements à ce niveau-là. En guillemets, là, c'est le commentaire que j'ai apporté. Je peux comprendre que quelqu'un qui vient se mettre de l'essence, puis qu'on arrive et dit « Non, monsieur, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas votre masque », qui nous regarde et qui dit « Comment ça? Qu'est-ce qui se passe à matin? » là? C'est juste dans ce sens-là, là. Mais tu as absolument raison, c'est tout le monde, là.
OK, ça va pour ça.
Moi, j'ai une question pour Daniel. Pour les masques, la distribution des masques, à Montréal, ils ont trouvé que le coût était presque pareil pour donner un masque réutilisable et lavable. Je pense que quelqu'un sur le lac, tu sais, qui est ici pour deux semaines, il faut qu'il ait à Saint-Sauveur quelque chose pour trouver un masque. Est-ce qu'ils vont être réutilisables, ces masques?
Ils ne sont pas réutilisables. Par contre, le magasin général va en vendre des masques qui sont réutilisables et lavables. Donc, ils sont en contact avec une personne qui en fabrique et il va en avoir sur place à vendre. Ça, c'est un bon point. J'avais oublié de mentionner ça, effectivement.
OK.
Au prix du marché, là. C'est pour...
C'est beau.
Okay. C'est bon. Alors, moi, tout ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que je vous rappelle que la coop, on est partenaire avec la coop, la coopérative des quatre pôles, et Daniel ainsi que France font partie de l'administration. Alors, c'est pour ça qu'on a des nouvelles assez, assez rapprochées là, je dirais, avec cet organisme. Ça va pour ça? OK. Alors, écoutez, Daniel, Franck, je vous remercie en passant de tous les efforts que vous déployez là, à la coop des quatre pôles. Je pense que la coop des quatre pôles, jusqu'à date, remplit bien son mandat. Elle a traversé la... On n'a pas terminé, mais en tout cas, elle traverse la période du COVID de façon assez bien, pour ne pas dire exceptionnelle. Elle rend d'énormes services à la communauté, puis c'est des services bien souvent qui sont personnalisés. Alors, je vous félicite vous autres, puis je félicite tous les gens qui œuvrent, que ce soit au conseil d'administration ou bien non, qui œuvrent au magasin général. En tant que tel. Un grand merci de la part de tous les citoyens. Je pense que je peux me faire pas de parole de ces gens-là. Il y a eu un document qui a été déposé concernant une demande d'intervention, vitesse et bruit. Écoutez, c'est des gens qui sont propriétaires puis qui sont près de la pause 4, mais surtout à la sortie du village. On a un sérieux problème là, de vitesse et de bruit, entre autres des motocyclettes. Alors, ils en ont fait part à Simon. Moi aussi, ils m'ont fait part de ça. C'est sûr que pour corriger ce problème-là, ça va prendre des actions, mais des actions multiples. Ça ne peut pas être via juste une seule action qu'on va réussir à régler ce problème-là. Il va falloir qu'on travaille à l'entour de divers éléments, puis avec divers intervenants, dont la Sûreté du Québec, le MTQ, tout ça. Fait que donc, Simon a été saisi de ce dossier-là, puis il va travailler là-dessus, là, puis éventuellement, on vous expliquera quelles seront les actions qu'on va porter pour améliorer cet aspect-là. C'est clair et net, quelqu'un qui demeure proche du village ici, proche de la 364, peut facilement observer dans la semaine comme les fins de semaine la vitesse des véhicules qui passent là, pour certains, puis le bruit occasionné par les motocyclettes. Alors, ce n'est pas une charge contre les motocyclettes, mais c'est une charge contre ceux qui vont trop vite, puis ceux qui, parce qu'ils vont vite, font énormément de bruit avec leur motocyclette. Je veux être bien clair là-dessus.
Pour renforcer, M. le maire, qu'est-ce que vous dites là, je confirme que même le monde ici à Hammonds Bay, nous sommes dérangés et pas mal par les motos. Donc, le pauvre monde qui reste sur le 6-4-3, là, ça doit être un enfer. Parce que on est loin et vraiment, c'est fort. C'est très, très fort. Je vous souhaite bonne chance et on est avec vous.
Ben, je peux renchérir. Moi aussi, je demeure un petit peu plus loin que toi vis-à-vis du lac, puis j'en reviens pas. À chaque fois qu'une moto passe, je pense à Michel. J'imagine Michel sur mon balcon. Ça doit pas. Oui, le balcon doit bouger, je pense.
Ça passe vite, comme hier encore. Des motos devaient passer au moins à 100 km/h. Dans le village. On est dans le village qui était comme 8h30 le soir. Donc, oui, effectivement, il faut vraiment régler ce problème-là. Écoute, c'est 50 km à partir après aussi où ce qui est le cimetière. Donc, à partir de là, en descendant la côte ou en montant la côte, c'est 50 km. Donc, les gens qui passent dans le village à 80-90 km parce qu'ils savent qu'à 8h30 le soir, il n'y a pas de Sûreté du Québec. Peut-être que si la Sûreté du Québec serait ici à 8h30 le soir, peut-être que ça ralentirait un peu. Mais ils sont ici une semaine, une journée par semaine, puis même des fois deux. Alors, tu sais, c'est ça.
Moi, j'ai une suggestion à faire, mais je pense qu'on est toujours enregistré, donc je vais fermer ma gueule.
Mais bon.
Tout le monde a vu le film The Great Escape.
Ah oui. Alors, écoutez, Simon a levé la main, là, mais grosso modo, là, vous comprenez que c'est pas juste la Sûreté du Québec que ça nous prend d'autres choses pour être capable à venir à bout. Simon, tu voulais parler?
Oui, bien, effectivement, M. le maire, comme vous dites, c'est pas juste la Sûreté du Québec, mais je voulais juste mentionner qu'on a demandé la semaine dernière une présence plus régulière à la Sûreté du Québec là, dans le noyau villageois puis sur nos chemins. Là. Donc, on a fait la requête, ça a été bien reçu de leur part, mais on a fait la requête officiellement. C'était juste ça que je voulais vous dire, mais on va faire d'autres actions comme M. le maire a précisé.
Si je peux, vous savez très bien que c'est un problème de plus qu'un village. Oui. Moronite, le Main Street infernal, à tel point que les maisons sont difficiles à acheter, vendre. Et puis, donc, au niveau de la rencontre des maires, j'imagine que ça peut se parler aussi, parce que ce n'est pas une solution nécessairement pour une municipalité, mais c'est une solution qui pourrait être apportée à plusieurs municipalités ici, le long de la 364 et la 329.
Oui, tu as tout à fait raison, Corina, sauf, je regarde à Saint-Sauveur, ils ont interdit la motocyclette sur une partie de la rue principale. Fait, donc, il y a certaines municipalités, puis Moronite aussi, qui ont leur, c'est dans leur rue qu'ils ont, les rues municipales sur lesquelles ils ont des problématiques. Alors, ils sont capables d'intervenir eux-mêmes, puis choisir les actions qu'ils veulent, parce que ce sont les rues qui leur appartiennent. Nous, ici, la problématique qu'on rencontre, c'est principalement la 364. Puis là, la 364, bien, ça ne nous appartient pas.
Mais la même chose à Moronite, c'est que le chemin principal qui passe dans le village, c'est la 329. Fait que Moronite, c'est le chemin du village, ouais. C'est la 329. Qui ensuite prend la 364 pour continuer vers Saint-Adolphe. Mais c'est alors, ils ont exactement le même problème, puis c'est un gros problème, les citoyens se plaignent. Alors, c'est dans ce sens-là que je me dis, c'est peut-être de se couper avec une autre municipalité qui a la même problématique pour trouver des solutions, puis pour que la SQ se réveille un peu, parce que c'est pas juste notre petite municipalité à nous.
OK. Bien, c'est bon, je prends ton commentaire, puis à la prochaine, prochain caucus... prochain tiennier de la MRC, je vais en parler justement avec Tim, puis on va voir aussi la réaction des autres maires. Probablement que Sainte-Marguerite aussi, puis Sainte-Adèle...
Sainte-Adèle aussi. Sainte-Adèle, celle de 329
par 100. Problème, fait que oui. Merci de m'avoir amené ce point-là. Je vais l'amener à la MRC.
Un autre point, René, c'est que d'ici à Weir, à Montcalm, il y a des grands rassemblements à Montcalm, j'en ai vu des cinquantaines de motos. Okay? Donc, cette partie de route entre ici et Arundel à Saint-Jovite. Ça, c'est un corridor de motos. Donc, c'est peut-être quelque part où ils peuvent concentrer parce que c'est très, très, très populaire avec des motos.
Ah oui. Ce route-là, là, de la façon dont elle est faite, elle attire les clubs, que ce soit de motocyclettes, que ce soit les clubs, je peux dire, moi, je vois passer des clubs de Miata, entre autres, des YG, là, des G. Toutes les, l'autre fois, c'était plus des voitures, style Lamborghini, tout ça. Donc, les clubs automobiles, là, ils prennent ce chemin-là. C'est un scenic road. Hein? Donc, ils aiment se promener là-dedans. Mais la plupart, au niveau des automobiles, ils sont, je trouve, très respectueux jusqu'à date. La problématique est définitivement plus la motocyclette.
Ah oui.
OK, fait que ça va pour ce point-là?
Oui.
Alors, on passe à la période de questions. Simon, on est bon? Alors, il y a Élise Latour qui nous a envoyé une correspondance pour vous faire un résumé de sa question. C'est, je ne sais pas si c'est une question ou en tout cas des demandes, à savoir qu'au niveau du stationnement, les affiches, puis les affiches qui puis ça recoupe un peu ce que M. Hyde aussi, la question de M. Hyde, à savoir comment se fait-il qu'il n'y a pas d'affiches pour diriger les gens vers d'autres stationnements, que ce stationnement-là devrait être pour les gens du lac. Le lavage de bateau, c'est pas assez bien annoncé. Le bibliophile, il pille, ces choses-là. Alors, grosso modo, puis Simon parlera probablement après moi, c'est toutes les affiches, effectivement, faire une soirée courte, là, dans le fond, là. C'est qu'avant la COVID, on avait un problème, mais qui n'était pas aussi majeur qu'il l'est depuis qu'on a la COVID. Ce printemps, on était plutôt, parce que là, on s'est aperçu que tout le monde, d'un coup, se ramasse. Tu sais, je parle, il y a énormément de touristes qui s'en viennent au lac. On n'avait pas ça. Tu sais, c'était pas aussi, ce mouvement-là n'avait pas autant d'ampleur dans le passé. Alors, on avait pensé justement faire des actions cet été, mais là, on s'aperçoit que les actions qu'on avait prévues, on aurait dû les prévoir plus tôt peut-être, puis peut-être donner plus d'ampleur à ces actions-là. Mais présentement, les affiches sont toutes en partie au niveau du graphisme et de l'impression. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant que les affiches nous arrivent. Et dans ces affiches-là, il va y avoir des affiches qui disent que le stationnement près de la marina va être un stationnement réservé aux résidents de la municipalité. Je n'ai pas le texte exact, c'est pour ça que je dis que Simon, tantôt, il va vous en parler plus. Fait que donc, il va y avoir ça. Il va y avoir des affiches qui vont diriger vers des stationnements. Donc, des affiches aussi qui vont être d'une plus grande ampleur. Monsieur Hyde a envoyé des dessins, donc on s'inspire entre autres de ça également. Un bout, on avait déjà eu certaines inspirations, mais il y a des gens aussi qui nous inspirent, c'est correct. Donc, tout ça est en branle. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse toutes les installer. Puis là, à ce moment-là, normalement, on devrait avoir une meilleure gestion quant au stationnement, entre autres, et également au niveau du lavage des canots et des kayaks et des embarcations, il va y avoir de l'affichage. Puis, sauf erreur de ma part, dans le règlement, c'est déjà prévu qu'il peut y avoir des amendes. Fait que donc, on va être plus vigilant à ce niveau-là. Le projet stationnement est toujours en marche. On a un premier draft présentement qui concerne le drainage, qui est un des premiers éléments à faire avant de faire le reste. Et le reste va suivre éventuellement. Puis normalement, en tout cas, moi je pense qu'on peut prévoir que le printemps prochain, on ne devrait pas connaître les mêmes problèmes que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors, Simon, peux-tu ajouter des choses?
Oui, je peux. Je peux bonifier ce que vous avez dit. Là, dans le fond, c'est que oui, les affiches, il y a une affiche qui est en production principalement pour le stationnement. Cette affiche-là va s'adresser autant aux visiteurs, excursionnistes, résidents, dans le fond, tous les clientèles qui viennent ou qui circulent ou qui veulent accéder au noyau villageois et au stationnement. Et puis, l'affiche va permettre de comprendre facilement via différents pictogrammes rouges ou verts. Là, dans le fond, les pictogrammes rouges vont être des interdictions qui vont être en lien avec nos règlements. Et les pictogrammes qui vont être verts, ben, ça va être des autorisations, dans le fond. Je nomme simplement là, l'interdiction des remorques, par exemple, attachées ou non. Donc, ça, c'est interdit dans la zone du stationnement. Ensuite de ça, les zones qui sont réservées aux embarcations non motorisées, dans le fond, les canots, kayaks et autres. Donc, on va améliorer justement la signalisation pour que ces usagers-là puissent savoir quoi faire quand ils vont arriver sur le site. Puis orienter les visiteurs, excursionnistes et autres pour le stationnement de leur véhicule. Donc, on va mettre ça plus facile de compréhension là, sur l'affiche, là, justement.
Ça va? OK. Donc, je souhaite que la réponse fasse en sorte de répondre aux questions et aux demandes de Mme Latteau et de M. Hyde.
Je peux juste demander quelque chose? C'est oui? Que le monde, quand ils viennent mettre leur canot, leur kayak, etc., en fait, ils ne sont pas obligés de l'aider. Je veux dire, il n'y a pas de supervision. Je sais que la majorité vont le faire s'ils voient vraiment une pancarte, mais il n'y a vraiment pas de supervision pour leur dire, de un et de deux, quand ils viennent avec leur remorque, pour leur bateau, etc., bon, mais où est-ce qu'ils stationnent? Parce que dans le règlement de la SQ, c'est qu'on n'a pas le droit de stationner avec des remorques dans les terrains, sur les routes municipales ou bien provinciales. Alors, ils vont où avec leur remorque?
Écoute, le problème là, de où tu vas avec ta remorque, c'est un problème qui appartient en tant que tel à l'utilisateur. C'est pas un. Ah, je le réponds comme ça. Là. Ça ne nous appartient pas comme municipalité à se mettre à gérer les remorques. Là. Nous autres, on a un stationnement, puis dans ce stationnement-là, on n'accepte pas les remorques. Donc, le client doit se tourner vers le privé. Je pense. Simon, je ne sais pas si c'est quoi rajouter là-dessus.
Non.
OK, mais ça veut dire que ça veut dire que les employés, quand ils sont face à un client ou à une personne qui paye pour mettre son bateau à l'eau, est-ce qu'il y a des tarifs pour les kayaks canots?
Kayak canot, c'est gratuit.
C'est gratuit, hein, c'est ce que je parlais. Bon, mais alors, un client qui vient mettre une chaloupe, quelque chose qui est payé pour mettre sa chaloupe à l'eau, la remorque, tout ça, ça va où? Parce que là, il a payé, mais là, il faut qu'il aille mettre ça à Montcalm ou à. C'est juste. De l'employé, parce que l'employé, il est pris, là.
Oui, la question est bonne.
Pourquoi, là?
Ben, nous, c'est sûr que il y a. Le citoyen ou l'excursionniste qui vient de l'extérieur de la municipalité a une responsabilité et quand les gens appellent à la municipalité, bien l'employé, comme vous dites, Mme Lupu, peut informer et on informe dans le fond les excursionnistes qui ne sont pas au courant. Donc, s'ils veulent venir sur le lac, on les informe. Il y a des choses qu'ils doivent faire. Et le formulaire du bon visiteur, par exemple, qu'on fait compléter et qui précise justement l'obligation de laver l'embarcation, dans le fond, peu importe motorisé ou non. Donc, ces gens de l'extérieur-là doivent suivre ça, puis c'est comme ça qu'on gère les demandes d'accès au lac avec ces formulaires-là. Puis ensuite, il y a les formulaires, il y a toujours deux formulaires à compléter. L'autre formulaire, c'est pour l'accès. Justement au lac selon les forces et l'intensité des moteurs. Puis à ce moment-là, nous, on explique aux citoyens ou aux excursionnistes qui veulent y aller. Puis après ça, il y a un suivi et je veux juste rappeler, c'est sûr que oui, la présence la fin de semaine, il n'y a pas quelqu'un qui travaille seulement sur ça, mais on a quand même une personne qui est présente tous les fins de semaine durant la saison estivale. On a un employé qui est là, puis qui informe les gens et qui surveille, là, justement, mais des fois, il ne peut pas tout surveiller. Là, comprenez, si on pourrait mettre une ressource supplémentaire dédiée à ça, mais donc c'est un peu ça.
Est-ce que sur le formulaire, c'est marqué pas de remarque?
Ouais, sur le formulaire, il n'y a C'est pas marqué pas de remorque, mais notre règlement est clair. On a affiché dans le stationnement pas de remorque et on le précise verbalement aussi à chaque usager.
Mais peut-être ajouter sur le formulaire, parce qu'une fois que quelqu'un a payé,
oui,
c'est pas le, ouais, a mis ton bateau, c'est pas le moment de leur dire ouais, mais vous ne pouvez pas mettre stationner votre remorque. Ouais. C'est vous le savez d'avance.
Oui. Oui, on le sait d'avance, c'est ça.
Tu as tout à fait raison, Colin. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus. C'est-à-dire que la personne paye pour mettre à l'eau, à quelque part, faudrait peut-être l'accommoder au niveau de sa remorque. Fait que, je pense qu'on a la municipalité, on a du terrain. On pourrait peut-être penser à dire, bon, ben voici, ça te coûte tant, puis ça te permet aussi d'avoir une place de stationnement pour ta remorque. Quitte à ajuster les prix à ce moment-là. Je ne sais pas, en tout cas, je pense que ça va être le sujet de la prochaine de caucus. Simon, j'aimerais que tu mettes ça là. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que là, la personne arrive avec. La personne qui arrive avec une chaloupe ou un bateau, elle a une remorque. Qu'est-ce qu'on fait avec la remorque? On n'en veut pas dans le stationnement de la marina, mais par contre, il faut faire quelque chose avec. Là. Ça va?
Bien, on dit qu'il n'y a pas de remorque, puis ils vont ailleurs. Mais c'est plus long. Il faut décider.
Oui. Mais je te fais remarquer qu'on voit à contresens ce que le gouvernement veut. Hein. Le gouvernement veut donner accès au lac à sa population. Fait que moi, je n'ai pas l'intention d'aller à l'envers du gouvernement provincial et fédéral, d'ailleurs. Fait que donc, on va trouver plutôt une solution pour la remorque.
Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que c'est l'un ou l'autre. Il faut décider.
OK. Prochain caucus, ça va être un sujet. Alors, j'avais une question également de M. Meldrum concernant les districts. Ben, voici ma réponse. Dans le fond, là, la découpe des districts, ça, c'est un souhait du gouvernement provincial. Puis ça a été également notre souhait d'avoir des districts. Parce que ça assure le plus possible un regroupement de citoyens qui ont le même profil sociodémographique, donc qui ont un profil sociodémographique commun, tout comme d'ailleurs la plupart du temps l'espace géographique qu'ils occupent. En plus, ça permet un sentiment d'appartenance plus fort envers l'élu qui défendra à ce moment-là au mieux les aspirations des résidents de son district. OK? Puis ça, ce sont des éléments qui sont reconnus dans la réglementation gouvernementale. OK? C'est ça qui guide notre démarche. Donc, nous autres, on fonctionne avec ce qu'il y a dans la réglementation provinciale du Québec. Alors, c'est ça qui guide notre démarche. Et dans le cas de deux districts, le district numéro 2, le district numéro 3, il y avait certains éléments qui faisaient que ça ne rencontrait pas ce que le gouvernement nous donne comme balise. Alors, ce qu'on a tenté de faire présentement, c'est de revenir vers ce que le gouvernement nous demande comme balise, entre autres, ce que j'ai parlé, la représentation socio-démographique et également géographique, le sentiment d'appartenance envers leur élu. Moi, je fais mention, puis Corinna, tu l'as déjà dit toi-même, il y a des gens qui sont dans le district 3 qui t'appellent directement. T'appelles toi, ils n'appellent pas le représentant qui est Claude Parizeau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens OK? Qu'ils aient voté pour ou qu'ils aient voté contre, ça demeure leur représentant au conseil. OK? Puis lui, il a une obligation, une responsabilité qui doit représenter l'ensemble de ses citoyens dans son district. Mais là, si les citoyens passent par un autre conseiller ou conseillère pour amener des choses, ben il y a quelque chose qui est déficient dans notre façon de faire. Alors là, c'est pour ça que ce qu'on a tenté de faire présentement, c'est de ramener le plus possible dans le district 2 les gens du côté est du lac, puis dans le district 3 des gens qui sont plutôt du secteur sud. Malheureusement, il y a une obligation dans cette réglementation-là ou dans cette loi-là, c'est qu'on ne doit pas dépasser un écart de 25 % par rapport à la moyenne de l'ensemble des districts. Et ça fait en sorte que, idéalement, le district 2 comprendrait l'ensemble des citoyens qui sont sur le côté Est. Mais malheureusement, à cause du 25 % on n'a pas été capable de faire en sorte de prendre tous les gens du côté Est et les mettre dans le district 2. Alors, il a fallu faire des choix. Alors, Simon a travaillé énormément avec les gens de la commission municipale, puis avec le directeur général des élections. Il a travaillé très fort pour essayer de trouver une solution que je dirais la plus... qui peut s'approcher le plus des guides qui nous sont présentés dans le document provincial. Alors, c'est pour ça qu'on a travaillé à revoir les districts, puis c'est pour ça que présentement, on a voté sur une découpe qui, à mon sens, représente beaucoup plus ce que devrait être une découpe qui respecte les balises qui nous sont données par le gouvernement. La première découpe qui avait été faite en 2013, elle était vraiment bonne. Malheureusement, il y a eu un changement qui s'est fait par la suite. Puis également, la population bouge. Il y a des gens qui vendent, qui achètent, il y a des maisons qui se bâtissent, des choses de même. Donc, cette découpe, il faut toujours la revoir à chaque année. Puis cette année, bien, quand il est venu le temps de la regarder, bien là, on a voulu apporter les corrections nécessaires par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Alors, voici ma réponse en ce qui concerne la question de M. Meldrum.
J'aurais juste si vous permettez, juste un petit commentaire, c'est que le monde se tourne vers moi parce que je suis très proactive envers les citoyens, que ce soit du lac ou bien du village. Alors, c'est pour ça que ils communiquent avec moi souvent, donc instinctivement, ils se tournent vers moi et non pas à une question d'appartenance sur le district, car même dans le district de David, sur le côté Est, ils se tournent aussi vers moi. C'est tout simplement une question d'être proactif. Et si, mettons, Claude était proactif envers les gens du lac ainsi que les gens du lac Florel, ils se tourneraient vers lui. C'est tout simplement une question de communication. Alors, je communique beaucoup, c'est pour ça qu'ils viennent vers moi.
Là, tu viens de dire quelque chose de, je trouve, je parle au nom de Claude, là. Non, je ne parle pas à son nom, je ne peux pas parler à mon nom personnel, je trouve ça très blessant ce que tu viens de dire là, parce que moi je peux dire que l'ensemble des conseillères et conseillers qu'on a présentement ici, ils sont très proactifs. Maintenant, la différence c'est que toi tu as une chance d'avoir la liste probablement des courriels de ces gens-là, ces choses-là, puis historiquement, les gens se sont adressés à toi. Mais je pense que si les personnes prenaient en considération que leur élu était Claude, puis trouvaient la façon de communiquer avec lui qui est bien facile, OK? Ils appellent la municipalité, ils demandent son numéro, puis ils vont pouvoir parler à leur élu. Ça fonctionnerait. Moi, je pense que c'est pas parce que tu es proactif que tu penses qu'il faut que tu penses que les autres ne le sont pas. Ils le sont. Les gens qui, eux, ne vont pas se passer à la bonne personne s'ils ont des questions. Puis, je ne sais pas pourquoi, ils ont une aversion de parler à Claude quelconque ou à France, que je ne comprends pas. Puis pourquoi pas à moi-même, d'ailleurs?
Moi, je n'ai pas tendance à blesser le monde ou dire des choses pour blesser le monde. Je parlais de Claude tout simplement parce que lui, il y a des citoyens sur le lac, tandis qu'il n'y a personne d'autre qui les ont. Je ne dis pas que vous ne communiquez pas. J'ai dit Claude parce que Claude a une partie du lac, tout le sud, le sud du côté ouest et le sud du côté est et tout le sud. C'est la seule raison pour laquelle j'ai mentionné le nom de Claude. Pas pour dire qu'il faisait pas, qu'il communiquait pas, etc. Je n'insulte personne. C'était tout simplement une question de logique et je voulais simplement corriger le fait que parce que je suis proactive, c'est la raison pour laquelle ça, il ne demande pas à David, il me demande à moi parce que c'est moi qui communique. Alors, ce que je dis, c'est que n'importe quel conseiller peut faire la même chose. Et donc, je pense que c'est tout simplement pour corriger une des choses que vous avez dit au début. C'est tout.
Corina, Corina, je m'excuse. Je t'inviterais, moi, à ce moment-là. C'est des citoyens du district 1, 2, 3, 4 qui te téléphonent et ou qui t'écrivent de les référer à leur conseiller tout simplement et te mettre en copie conforme. C'est ça, une équipe.
Et c'est ce que j'ai fait, en fait, Claude, dernièrement. J'ai envoyé justement une communication d'un citoyen à Claude. Et moi, ce que je fais, c'est quand il m'envoie quelque chose, je l'envoie à Simon. Et après, Simon, s'il veut distribuer, ça va.
En fait, moi, je pense que le commentaire de France est tout à fait juste. Écoute, moi, avec Colina, je t'invite à ce moment-là. Un, ça va te libérer un peu. Et que donc, tu invites les gens qui te communiquent, mais qui ne sont pas de ton district, mais tu es renvoyé vers leur représentant dans leur district. Ça va? Ça va peut-être faire en sorte, justement, que ça va développer un sentiment d'appartenance qui est voulu par l'ensemble des gens par rapport à leur élu. Donc, moi, j'ai répondu à M. Meldrum là-dessus. Vous avez commenté. Maintenant, on passera à M. Cléline et ça, je vais inviter Simon à répondre. M. Cléline parle entre autres des quais. Le myriophile, je pense que M. Hyde en a parlé, on porte des actions sur le myriophile. Quoi que certains peuvent penser, là, peut-être que il y a des questions de bouée qui sont pas là encore, là, c'est des choses de même, mais on travaille fort. Jean-Louis, entre autres, d'ailleurs, a commencé ses travaux. Donc, le myriophile, on s'en occupe. Au lac Laurel, je sais que Jean-Louis s'est rendu au lac Laurel et pour porter certaines actions pour un autre événement et qui semble ressurgir. Alors, on travaille fort là-dessus. Là. La qualité de notre eau pour nous autres, là, de nos lacs, là, de nos deux lacs, là, c'est bien important. Alors, Simon, tu y vas-tu pour M. Cléline?
Oui, il n'y a pas de problème. Donc, la question de M. Cléline, si on a bien compris, c'était au niveau de l'accessibilité des usagers pour les espaces quais qui ont certains problèmes de mobilité. Donc, il y avait plusieurs questions, mais pour résumer sa question, c'est de cette manière-là qu'on a compris les questions. Pour répondre à la question, ben, comme on disait, l'affectation des quais, c'est une activité d'ordre administratif, là, dans le fond. C'est la responsabilité du personnel administratif de faire cette action-là, dans le fond, parce que il y a des raisons pour ça, c'est qu'il y a plusieurs critères selon le règlement à respecter et tout ça. Puis, on doit tenir compte de plusieurs éléments comme, par exemple, la largeur des bateaux, des embarcations. Donc, vous êtes au courant de ça. Je ne vais pas répéter tous les critères. Mais c'est important. Puis une fois qu'on a toutes ces informations-là, ben on est en mesure d'affecter puis de respecter le règlement pour affecter. Une fois que ça c'est fait, ben on prend, bien sûr, depuis le début du printemps, là, lorsqu'on a débuté à faire l'affectation des quais, on a pris en compte la liste justement de M. Cléline et de Mme Lupu. Qui nous ont remis, on a regardé ça. Puis ensuite, on a répondu à chaque requête qui a été faite par les citoyens. Donc, les citoyens qui avaient des pertes d'autonomie nous ont contactés directement ou nous ont inscrits sur leur formulaire qui avaient des pertes de mobilité ou des problématiques. Et on en a tenu compte. Donc, oui, effectivement, on en a tenu compte. Et on a fait des actions aussi pour améliorer leurs demandes et pour répondre à leurs demandes. On a ajouté je crois, deux rampes là, et on a stabilisé deux autres quais aussi en bois qui branlaient un peu, qui étaient moins stables, bien sûr, que les quais de Port-Alu. Donc, sur les 8 doigts de quai qui restent à remplacer, avec l'équipe de la voirie, on a ajouté des éléments pour stabiliser les quais selon les requêtes qu'on a reçues et en tenant compte de cette liste-là. Donc, je peux vous confirmer au conseil là, puis à M. Cleland qu'on a pris en compte là, toutes les requêtes aujourd'hui ou cette année qui ont été faites à la municipalité directement, autant par les élus, par le conseil et par les citoyens ont été prises en compte, puis on les a traités. Puis jusqu'à maintenant, puis on a répondu, et eux aussi nous ont répondu en précisant qu'ils étaient satisfaits pour cette année de comment on leur avait répondu. Donc, s'il y a d'autres requêtes au courant de l'été, on est toujours ouvert à répondre à leurs demandes, dans la mesure du possible, vous comprenez, parce que ça comprend quand même plusieurs espaces quais. Donc, c'est un peu ça notre réponse pour M. Cleland.
Il faudrait ici, je pense, à quelque part qui mentionne pourquoi on n'a pas donné un coup pour tout remplacer, toutes les doigts de quai. Bien, écoutez, c'est une question de budget. Nous, on a décidé de s'en tenir à l'intérieur du budget qu'on avait. Et l'an prochain, normalement, on devrait avoir les argent. Puis quand je dis le budget, bien, c'est les revenus de quai, là. Alors, mais l'an prochain, normalement, avec les revenus de cette année, on devrait être en mesure de compléter le remplacement des doigts de quai. Puis on a déjà parlé d'ailleurs. On va même regarder, voir s'il n'y aura pas lieu d'ajouter des doigts de quai, parce que la demande a été très, très forte cette année. Fait que peut-être qu'on devra rajouter des doigts de quai. Alors, voilà. Est-ce que de la part de mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers, il y a des... Pardon?
On n'a pas compris, René.
Ah, je m'excuse. Alors, je demandais, est-ce que de la part de mes conseillères et les conseillers, il y a des gens qui auraient des questions à poser autres que celles qu'on a jusqu'à date?
Est-ce que c'est la fin des questions?
Ben oui, moi, il n'y a pas eu d'autres questions de la part de la population.
J'aurais deux choses. On avait envoyé, il y a un citoyen qui avait envoyé, M. Hamilton, qui habite dans la Grande Baie, qui m'avait envoyé une notice comme quoi la lumière, le phare qui est sur les roches était faible. Alors moi, j'ai renvoyé ça à la municipalité. Puis je pense que ça, c'était le 5 juillet. Le 13 juillet, je pense, Simon, quelqu'un qui est allé, mais apparemment, la lumière est complètement éteinte. Et ce matin, j'ai reçu une petite note comme quoi la lumière est très faible sur le rocher. Puis étant donné que c'est un rocher en plein milieu du lac, là, c'est dangereux, on voyage la nuit, fait que c'est très dangereux. Je ne sais pas s'ils l'ont réparée, mais elle était complètement éteinte il y a quelques jours, le 13, il y a 5 jours. Puis là, maintenant, elle est très faible, je veux dire, elle clignote à peine. Alors moi, je rapporte ça tout simplement.
Oui, bien, je peux vous dire que la demande, on s'est déplacé pour aller vérifier les lumières en question, parce qu'on est allé faire on en a profité pour aller faire une inspection complète, puis ouais. C'est en cours là, de réparation, là, justement.
OK. C'est juste que chaque jour et chaque nuit est dangereuse, même. Ensuite, l'autre chose, c'est quand j'avais fait une proposition qu'on fasse des meetings Zoom ouverts au public, est-ce que vous pouvez me donner une raison pour laquelle on ne peut pas le faire?
Ben non, pour l'instant, là, on a discuté avec l'ensemble du conseil au caucus. on avait établi, c'était venu de M. Estal justement, pour avoir une nouvelle formule là, pour poser des questions. C'était plus ça la question. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau technologique, il faudrait voir, puis ensuite de ça, d'intégrer tout, d'intégrer un nombre de citoyens en Zoom. Il y a des moyens de contrôle qu'il faut avoir là, sur le déroulement de la rencontre. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais on va le regarder. Là.
Ça s'est fait, je veux dire, dans plusieurs organisations de théâtre à Montréal. Et puis, on a des meetings Zoom qui sont ouverts aux membres. Et puis, le dernier, il y avait 100 personnes. Ils n'ont pas le droit de parole. C'est juste qu'ils voient, ils peuvent assister, puis voir, puis participer. Sauf qu'il y a un petit chat à côté où ils envoient la question.
Oui.
Alors, les questions, ça vient par écrit. Et donc, la période de questions, on lit ce qu'ils ont écrit, puis on répond aux questions.
Oui.
Excusez-moi. Moi, je dirais, en principe, là, même on pourrait tenir des séances avec public à condition qu'on respecte toutes la distanciation et ces choses-là. Je pense que l'exercice qu'on a à faire présentement, c'est qu'est-ce qui est le plus simple? Là? Essayer de mettre ça sur Zoom pour avoir tout le monde? Ou bien non, tenez nos séances du conseil dans la salle du conseil en respectant les règles que le gouvernement nous émet. Je pense que ça va être ça, là, la décision qu'on va devoir prendre.
Point d'information, René. La ville de Montréal fait ça. Ma conseillère à la ville de Montréal a des town meetings pour l'instant et elle envoie une courriel au monde, demandant s'ils veulent participer. Et à ce moment-là, 5 minutes avant la réunion prévue, il reçoit, comme nous, l'invitation à joindre. Et on peut avoir, c'est la ville de Montréal, le plus grand arrondissement à la ville de Montréal. Elle est vraiment spéciale, mais quand même, c'est très facile pour le monde. Et comme disait Corina, tu peux taper les questions qui vont directement au meeting. Donc, ça fonctionne extrêmement bien.
La seule chose que je ne sais pas, là, c'est moi, je vous avoue, là, moi, je sais que la fibre optique haute vitesse a été déployée dans le village ici. Mais pour les gens du sud, les gens du lac, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Fait que, mettons qu'on dit qu'on fait ça sur Zoom, mais que ça ne fonctionne pas, eux autres, le Zoom. On n'a pas fait un grand coup, là. Comprenez-vous?
Mais sur le lac, on a de la haute. Moi, je suis au lac. Puis j'ai de la haute vitesse, puis la majorité des personnes sur le lac, ils sont sur Belle ou bien Accès, ou je pense qu'il y en a un troisième.
OK, je pensais qu'Accès ne fonctionnait plus.
Accès, non, moi je suis sur Accès, moi.
Ah, tu es sur Accès, toi?
Ça fonctionne très bien.
Bon, ben, dans ce cas-là, je pense que là, l'ouvrage, là, Simon va regarder, voir par rapport à la technologie qui est devant nous autres, là, qu'est-ce qu'on a de faire. Puis, on prendra une décision, là, en fonction de ce qu'il y aura, ce qui sera fait nous autres, là.
Il y a le meeting, la prochaine fois, ça c'est au sud. Normalement, c'était supposé être au sud. Et le restaurant est trop petit, de toute façon, pour faire de la distanciation sociale.
Ouais.
C'est pas un restaurant, Corina, c'est une salle. Une salle pour les personnes âgées.
C'est la même grandeur.
Il me dit, ouais, le restaurant est encore un petit peu plus petit.
OK, la salle, excuse-moi.
Oui, Simon?
Oui, bien c'est ça, on va vérifier au niveau des technologies. Là. C'est possible, mais c'est important que vous compreniez qu'il y a les lois. OK, nous autres, M. Estal a parlé de Montréal, là. Ça c'est la loi de... Il va falloir qu'on fasse les vérifications auprès du ministère des Affaires municipales parce que Montréal est sous juridiction là, de la loi sur les cités et villes, alors que nous, c'est le code municipal. Puis il y a des petites distinctions importantes en assemblée, justement, du conseil. Là. Fait que, tu sais, je vais m'assurer de vérifier ça aussi.
Est-ce que ça fonctionne, Corina, est-ce que ça fonctionne à Morin Heights avec le public, sais-tu?
À Mornette, ils sont à huis clos, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le maire, tous les mercredis de 7h, de 19h à 21h, Il est sur Zoom et le monde, les citoyens peuvent aller sur le site web et cliquer et puis ils vont rejoindre le maire sur Zoom pour poser des questions directement au maire. Alors, une fois par semaine, Tim Watcher répond aux questions des citoyens, sauf les mercredis de conseil ou mardi de conseil. Mais c'est le conseil lui-même est à huis clos, je pense. C'est juste que les périodes de questions sont détachées. Et Tim fait une période de questions hebdomadaires avec les citoyens sur Zoom qui ont accès. Alors, tous les citoyens ont accès.
Okay. Merci.
Bon, ben on regarde ça, Simon.
Oui.
Ça marche. Fait que c'est terminé pour tout le monde. Moi, j'ai quelque chose à dire avant la fin. Je remercie toutes et tous d'avoir été là. Mais je vais vous souligner que cette semaine, il y a eu un événement que je considère quand même pas anodin, à savoir que Simon a traversé son année de probation. Alors, depuis le 15, Simon, sa probation est terminée et je lui ai fait signifier comme quoi qu'on désirait le garder. Puis j'ai posé la question s'il voulait rester, puis il m'a répondu oui. Je lui ai trouvé ça très intéressant. Je me suis renseigné auprès de Maître Mercier s'il fallait passer une résolution pour son embauche, si je devais également, avant la fin, réaliser une autre évaluation. Et Maître Mercier m'a dit que l'évaluation que j'avais faite, voici quelques mois, non, puis que c'était très représentatif. La prochaine était à faire plus tard, donc à peu près comme un an après celle qu'on lui a déjà faite. Et que non, on n'avait pas besoin de résolution. Le contrat est clair à ce niveau-là. Comme on n'a pas décidé de se départir de Simon dans l'année, eh bien, le contrat continue tel quel. Alors, moi, je dis félicitations à Simon, puis je le remercie. Il fait du bon boulot, puis je souhaite que ça continue ainsi.
Oui, merci, puis... Merci, je voulais...
J'ajoute un petit mot. Je suis très satisfait de l'équipe que vous êtes présentement. Donc, vous êtes une bonne équipe d'administration, puis ça, les dossiers les dossiers sont bien travaillés, ça avance, puis c'est bien plaisant. Fait que Simon, lui, a décidé de fêter ça fort. Il part en vacances pour une semaine. Alors, bonne semaine, Simon.
Ben merci, puis je voulais remercier la confiance que j'ai du conseil municipal et du maire. Là. Donc, merci beaucoup à tout le monde.
Merci, Simon. Bonne vacances.
Oui, merci.
Bonne vacances.
Bonne vacances,
Est-ce qu'on a clôturé le...
Je propose.
C'est vrai. OK, c'est France qui propose la levée de la santé.
Je demande un vote. Bonne journée.
Tu veux bien voir tes comptes, mais je pense que tu vas être tout seul.
Merci, bye.
Au revoir. Profitez de la fin de semaine.
Bonne fin de journée.
Bye
bye. Bye.
Bye.